Les matins de France Culture.
Et la revue de presse internationale de Thomas Cluzel avec, pour commencer, Thomas, l'Afrique du Sud.
Oui, tard hier soir, Jacob Zuma a donc fini par se plier à la volonté générale. Il était près de 23 heures lorsque, dans une allocution à la Nation retransmise en direct à la télévision, le président Oni a annoncé sa démission. Une issue accueillie dans la presse ce matin avec un soulagement non dissimulé quand The Mail and Guardian jubile Time's Up, le temps est écoulé. Le site d'information Le Jelly, lui, se félicite. Enfin, la capitulation, l'insubmersible a fini par couler, peut-on lire encore en une de l'Observateur Palga, mais c'est sans aucun doute The Daily Maverick qui semble le plus satisfait ce matin. Lettre blanche sur un bandeau noir, le célèbre caricaturiste du journal a écrit la fin d'une erreur avec, à la place de la lettre D, le dessin de la fameuse douche avec laquelle il avait pris l'habitude depuis 10 ans maintenant de représenter systématiquement Jacob Zuma. À l'époque, c'était en 2006, avant de devenir président, rappelle le temps, Zuma avait été accusé de viol et au tribunal, quand le juge lui avait demandé pourquoi il ne s'était pas servi de préservatif, sachant que la jeune fille était séropositive, il avait simplement répondu « j'ai pris une douche ». De son côté, l'éditorialiste du Daily Maverick le répète ce matin « enfin, notre long cauchemar est terminé ». Hier soir, après ce qui ressemblait plus à une longue tirade qu'à un discours, les bouchons de champagne ont sauté dans tout le pays, partout des soupirs de soulagement ont été entendus. Alors bien sûr, tant de choses ont été cassées que nombreux sont ceux qui se réveilleront encore lugubres ce matin en examinant l'état dans lequel Jacob Zuma laisse notre pays, la pauvreté, le chômage, les terribles inégalités raciales. Tout cela vous diront probablement que les Sud-Africains n'ont rien à célébrer ce matin, que les problèmes ne feront qu'empirer, que la corruption gangrène toujours le parti au pouvoir, ANC, mais ils ont tort. L'Afrique du Sud doit au contraire se réjouir, dit-il, car notre société, certes divisée et inégale, a réussi à renverser cet homme maléfique qui des années durant aura essayé de nous monter les uns contre les autres. Ce matin, ce n'est pas seulement une victoire pour l'ANC, mais pour chaque citoyen sud-africain. Les gens de ce pays ont été poussés à bout jusqu'à la limite, mais ils ont survécu. À présent, tout sera différent. Il y a certes des problèmes à résoudre, mais désormais, il y aura une volonté de les résoudre et non plus de les aggraver. Reste qu'à un peu plus d'un an des élections générales, prévient ce matin le site Le Jelly, la tâche du futur président Cyril Ramaphosa s'annonce rude. L'ancien homme d'affaires devenu millionnaire a promis de relancer l'économie du pays et d'éradiquer la corruption, mais qu'il ne se fasse aucune illusion. Il ne bénéficiera pas de la moindre période de grâce. Après ce que le pays vient de vivre, il n'a pas droit à l'erreur. Il devra agir vite et bien. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il devra s'attendre lui aussi à sortir par la petite porte réservée à tous ceux des dirigeants qui ne font pas l'effort de mériter la confiance et l'espoir placés en eux par leurs peuples respectifs. Voilà donc Cyril Ramaphosa averti. Enfin, s'agissant de ces dirigeants poussés vers la sortie, sous les lazis et les colibets, l'éditorialiste du pays note pour sa part que le président sud-africain a suivi en cela les traces de son homologue zimbabwéen Robert Mugabe.
Et le Zimbabwe, justement la une également de la presse ce matin, après la mort hier des suites d'un cancer du chef de l'opposition Morgan Tsvangirai.
Oui, Tsvangirai, ce vrai héros, titre ce matin Zimbabwean, ennemi de longue date de l'autocratique Robert Mugabe, rappelle pour sa part The New York Times. Il avait dirigé pendant près de 20 ans le mouvement pour le changement démocratique, MDC, un engagement qu'il avait d'ailleurs payé de sa personne, détenu à plusieurs reprises. Il avait lui-même été victime de la brutalité des forces de sécurité, c'était en 2007. « Oui, ils ont brutalisé ma chair », avait-il déclaré dans un message depuis son lit d'hôpital, « mais ils ne briseront jamais mon esprit jusqu'à ce que le Zimbabwe soit libre ». L'année suivante, son rêve d'accéder au pouvoir avait enfin failli devenir réalité. Il était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avant de décider finalement de se retirer du second tour à la suite d'une campagne de violence, là encore orchestrée par le pouvoir contre ses partisans. Alors à l'issue de ce scrutin, Tsvangirai avait tout de même été nommé Premier ministre d'un gouvernement de soi-disant coalition, un pacte qui avait de facto considérablement réduit sa capacité à s'opposer au président, et nombreux sont ceux à l'époque qui lui avaient reproché d'avoir été ainsi coopté par son ennemi juré. Puis cette année, il devait être à nouveau le candidat officiel du MDC pour la présidentielle face au successeur de Mugabe, du moins jusqu'à la semaine dernière où il avait fini par céder sa place à la tête du parti, laissant déjà présager que son état de santé s'était détérioré. Toujours est-il qu'il laisse à présent un parti orphelin et affaibli par ses querelles internes.
Et puis on termine avec un drame, l'un des pires drames qui soit arrivé aux États-Unis depuis 25 ans.
Oui, hier, un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique a fait 17 morts dans un lycée de Floride. Le suspect, 19 ans, identifié comme un ancien élève, renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires, a été arrêté. Et ce matin, dans la presse, nombreux sont donc les témoignages racontant la panique qui a saisi les élèves retranchés dans leur classe. C'était la fin de la journée, l'alarme incendie s'est déclenchée. Nous avons commencé à évacuer. Après avoir fait quelques pas hors de la classe, on était à terre, caché dans un placard, raconte une ancienne enseignante sur CNN. Ce qui s'est passé, c'est que l'alarme incendie a sonné. Nous avons tous pensé que c'était un exercice parce qu'on avait déjà eu une fausse alerte incendie. Alors on ne l'a pas prise au sérieux et tout à coup, on a entendu des coups de feu, a confié un autre élève sur une chaîne locale. Ce drame est donc le dernier d'une longue série de fusillades ayant ensanglanté l'Amérique ces dernières années, particulièrement récurrent dans les écoles américaines. Il y en a déjà eu 18 depuis le début de l'année.